Étienne Popopien et tous les autres aussi, bonjour. On n'arrête pas le crime. La boucherie de Boutcha nous l'a encore rappelé ce week-end et il arrive parfois qu'on n'arrête pas non plus les criminels et qu'ils préfèrent se faire justice eux-mêmes avant que celle-ci ne les rattrape. En règle générale, pour peu qu'on ait la fibre investigatrice, comme c'est le cas avec notre invitée Patricia Touranchot, pour qui le crime n'a pas de secret, cela produit de passionnantes enquêtes, spécialement quand l'assassin a pu passer entre les mailles du filet pour la bonne et simple raison qu'il faisait lui-même partie du filet. Oui, popopiennes et popopiens, nous allons aujourd'hui faire concurrence à notre ami Fabrice Drouel, pour qui c'est l'histoire qui n'a plus de secret, et marcher sur ses plates-bandes qu'il bine avec la même sensibilité que celle dont il fait preuve pour biner ses propres affaires. Mais après tout, l'histoire de sa pop culture est elle-même riche en crimes divers et variés, pour la plupart fictionnels, heureusement, comme en témoignent par exemple toutes les séries sur les tueurs en série, justement. Alors venez frissonner avec nous sur la trace du Grelet, cet assassin redoutable, pervers, hors norme, qui tient en échec la brigade criminelle de Paris pendant 30 ans. Patricia Touranchot est aujourd'hui l'invitée de Pop 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 et Pop Pop Pop. C'est parti.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop.
Merci.
Vous venez donc nous présenter ce livre Le Grelet, le tueur était un flic, paru aux éditions du Seuil le 5 mars. Nous allons en parler longuement avec Charline qui nous rejoindra dans quelques minutes. Mais avant cela, nous allons parler un petit peu de vous, ma chère Patricia. Vous étiez vendredi dernier en dédicace à Quai du Polar, le festival de littérature policière à Lyon, au milieu d'auteurs de fiction. Et fiction qui ne vous a jamais tenté, vous, la reine des enquêtes. Pourquoi ? Parce que la réalité dépasse toujours la fiction.
Exactement, exactement. Quand on a une histoire...
Non, vous n'allez pas vous en tirer comme ça.
Non, non mais je ne me considère pas comme une écrivaine, encore moins comme une romancière. J'écris des récits du réel, peut-être des polars. Ce sont des polars du réel.
Ouais.
Mais tout est vrai. Et pour l'instant, mes histoires, celles que je choisis, je les trouve tellement, franchement, tellement fortes, tellement incroyables, que je pourrais pas les inventer.
Oui.
J'ai fait une petite formation de scénariste. Mais en fait, je reviens toujours à la réalité. Je fais des séries documentaires et je fais des livres documents.
Ou qu'il serait superflu de rajouter de la fiction.
Oui, totalement, totalement. Et même, dans ce livre, il y a des rebondissements naturels de l'histoire,
ah oui,
des détails. Des trucs incroyables que je ne pourrais pas inventer, que personne ne pourrait inventer. C'est trop dingue, on ne le croirait pas franchement dans un film.
On ne le croit pas déjà dans le livre tellement c'est fou cette histoire. Bon, on va y revenir longuement, mais d'abord je voudrais commencer par un morceau de musique qui me semble tout à fait approprié au sujet d'un serial killer. C'est écrit par un maître de la pop musique parti trop tôt dans des circonstances elles-mêmes mystérieuses. C'est évidemment Elliott Smith et son fameux Son of Sam.
Go.
Son of Sam, c'était Elliot Smith, Son of Sam, qui était un serial killer américain des années 70. Un terrible personnage qui est toujours en tôle d'ailleurs, il est toujours en vie. Alors nous sommes en compagnie aujourd'hui de Patricia Tourancheau, notre invitée. Patricia, vous êtes journaliste spécialiste en affaires criminelles et vous avez effectué une grande partie de votre carrière au journal Libération. Qu'est-ce qui vous a attiré au tout départ vers cet univers, je ne parle pas de celui de Libération, mais du crime, légèrement anxiogène dirons-nous?
Au départ, c'est un hasard. Libé m'envoie sur des faits divers parce que pas mal de journalistes avaient une réticence à aller parler à des policiers et des gendarmes. Et comme ce sont eux qui font les enquêtes criminelles, moi, ça me posait aucun problème. Ça m'intéressait, les énigmes, la manière dont ils avançaient avec des indices, avec des témoignages. Donc, j'y allais assez facilement. Et puis après, je me suis prise au jeu. Mmh. Et j'ai jamais souhaité changer de rubrique. On me l'a proposé et tout. Et jusqu'au bout, enfin, je me revendique comme fait diversière. Ouais. Hein. Moi, je trouve que c'est un terme assez noble et que la matière sur laquelle on travaille est noble. Je veux dire, ce sont des histoires humaines. Il y a le côté enquête policière, donc le suspense, les rebondissements, les fausses pistes et tout. Mais ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les gens, quoi, les témoins, les victimes, les criminels eux-mêmes, les bandits, et puis aussi les enquêteurs.
Mais justement, on m'a dit que votre pot de départ, après 25 ans de bon et loyaux service, avait été anthologique, que vous aviez invité aussi bien des voyous que des policiers, que des magistrats et que tout ce petit monde-là, ouais. C'était entretenu d'une manière fort civile.
C'était incroyable. C'était juste après les attentats de Charlie. J'ai été partie le 2 janvier 2015. Je suis revenue parce que cet énorme fait divers qui était la tuerie à Charlie m'a rattrapée, en fait. Et la voiture des Kouachi est même venue se crasher devant ma maison, rue de Meaux, dans le 19e arrondissement. Ce qui est incroyable. Et Libé m'a rappelé, donc je suis retournée 12 jours. Et j'ai décalé mon pot de départ d'une semaine. Et donc, il y avait à peu près 300 des bandits du gang des Postiches, des bandits, Philippe El-Chenaoui, qui avait un bracelet électronique, qui était un braqueur qui est resté très très longtemps en prison. Il y avait le commissaire, le patron de la police, Frédéric Pechnard, qui était le premier flic que j'ai connu au 36 quai des Orfèvres.
Avant Postel Uni.
Nadine Vaujour, qui avait fait évader son homme en hélicoptère de la prison de la Santé en 86, François Besse, l'associé de Mérine, qui est allé voir à un moment donné, il m'a dit, je vais voir mon président. Je dis, mais quel président? Mon président de cour d'assises,
bien
que
sûr,
j'avais invité aussi.
Le seul.
Il y avait son avocat.
Il y avait une bonne ambiance, quoi.
Non, mais c'était génial parce que tous, ils se sont parlé à la fin.
Ouais.
À la fin, il y avait des petits groupes de voyous qui parlaient à des groupes de flics qui les avaient chassés. Et en gros, des deux côtés, ils s'ennuyaient parce qu'ils étaient quasiment à la retraite. Et
Mais justement, Patricia, vous avez donc passé toutes ces années sur la ligne jaune qui sépare les deux mondes, l'univers de la loi et puis les hors-la-loi.
Oui.
Vous ne vous êtes jamais vous-même senti tiraillé entre les deux?
Parfois, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais... en même temps, c'est sympa. Enfin, chaque monde savait que je voyais les autres. Mmh. Et donc, au départ, évidemment, les enquêteurs, genre brigade de répression du banditisme, essayaient de me tirer les verres du nez. Les bandits essayaient de savoir ce que savait la police. Mmh. Et j'ai été réglo des deux côtés, c'est-à-dire que je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas une balance, je ne suis pas une indique du côté de la police. Si certains journalistes font ça, croyant avoir des tuyaux, c'est pas mon cas. Si j'ai pas de tuyaux, c'est pas grave. Et aux bandits, je leur disais, me dites rien, en tout cas, des coups que vous préparez, parce que ça me mettrait dans l'embarras. Et il m'arrivait d'entendre une ou deux choses dont je me suis bien gardée de parler à la police.
Ouais.
Et tout s'est bien passé. Fallait rester sur cette ligne, justement.
Bien sûr,
surtout pas déborder, sinon je pourrais pas faire ça au bout de 35 ans.
Quelles sont les qualités communes entre un bon journaliste et un bon enquêteur? Et qu'est-ce qui les différencie, au fond?
Il faut la niaque, il faut vraiment ne pas lâcher sa piste. Et je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour les gens. Voilà. Il faut les mettre en confiance pour pouvoir discuter à bâton rompu. Il faut pas toujours être intéressé et il faut suivre le fil de sa petite enquête, quoi, et pas la lâcher.
Un des aspects qui fascine le plus le public dans les grandes enquêtes criminelles, c'est évidemment la traque des serial killers. parle d'un serial killer aujourd'hui, le grêlé, on va y revenir dans quelques instants. Ils sont le sujet d'innombrables romans, films, séries, mais au fond, c'est pas grand-chose de ce phénomène. Qu'est-ce qu'il y a de si tellement fascinant chez ces grands tueurs?
Ce qui est, en tout cas, qui pose vraiment question, c'est leur clivage. C'est le fait qu'ils soient des êtres doubles, enfin doubles ou triples, et qu'il y a quelque chose que nous, on peut pas vraiment comprendre, quoi. Que ce soit sur Guy Georges, sur le Grêlé, sur, Fourniret, etc. Les psys disent que il y a une dimension dans le crime de ce qu'ils ressentent eux, que l'expert psy Daniel Zaguri imageait dans un procès d'assises d'un tueur en série. Il disait, en fait, le type, quand il tue, le sentiment, c'est pas un besoin sexuel, c'est pas un besoin, c'est autre chose, c'est le sentiment de toute puissance qu'il éprouve. Et lui disait, l'image, c'était comme Charlie Chaplin sur la map monde, qui domine le monde. Et c'est un sentiment d'élation. Enfin, voilà, ils sont au-dessus de tout. Et je pense que c'est ça qui... c'est la noirceur totale de l'âme humaine qui, là, est révélée et qui nous fait peur, quoi.
Mais justement, à propos de Guy Georges que vous citiez à l'instant, vous avez écrit ce livre, hein, Guy Georges, La Traque, paru chez Fayard en 2010 et qui a servi de bible pour ce film.
Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides.
Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1.
Vous avez fait un travail impressionnant.
Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans.
Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre.
L'ADN a parlé. Il s'appelle Guy Georges.
Alors, il s'agit donc de l'affaire SK1. C'est un film de Frédéric Tellier qui retraçait la traque de Guy Georges. Quelle est, à votre avis, la différence entre votre travail de journaliste et puis les œuvres de non-fiction qui, depuis De sang froid, hein, de Truman Capote, jusqu'à L'adversaire d'Emmanuel Carrère ou les livres de Philippe Geneda, que vous aimez beaucoup, je sais. Quelle est la différence de fond entre ces deux approches?
Je n'utilise pas tellement le jeu. Je m'efface derrière les histoires. J'essaye cependant d'en faire un récit. Et donc c'est pas du roman. Je sais pas bien quelle est la différence. Mais bon, enfin, moi j'arrive pas à la cheville de Truman Capote avec De sang froid, qui est mon livre culte. Il y a des choses un peu communes, quoi. Si on essaye de quand même bien l'écrire, cette histoire, avec des rebondissements et tout. Peut-être que le truc, c'est de pas me mettre en avant dedans. Juste dans le prologue, quoi. Parce que j'ai toujours appris à Libé à m'effacer derrière l'histoire et les personnages et l'intrigue qui est racontée. Donc, je continue un peu comme ça.
Mais dans ce prologue, vous y êtes très présente dans le Grêlé. On va en reparler tout de suite. Patricia, dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline pour parler avec vous du fameux Grêlé, le tueur était un flic, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Mais avant cela, écoutons ensemble un morceau de Circonstances. Devinez, c'est Psycho Killer des Talking Heads.
Run, run, run.
On est à l'antenne, là ?
Non, pas du tout.
Nous écoutions Psycho Killer des Talking Heads, et voici que nous sommes rejoints, et ça n'a rien à voir, par Charline Roux, même si David Byrne aurait donc été aperçu en Picardie et pris un temps pour le fameux grêlé. Incroyable, mais vrai, on va y revenir dans quelques instants.
C'est faux, je vais mener une contre-enquête, Antoine.
Charline, au rapport, s'il vous plaît.
Eh bien, aujourd'hui, il est question d'une enquête des plus circonstanciées sur, et je vous cite, Patricia, la plus grande énigme criminelle française du dernier siècle, une énigme d'un tiers de siècle, identité d'un dangereux prédateur, violeur, meurtrier qui a tenu en échec la police pendant 35 ans, le grêlé. Votre livre s'appelle « Le tueur était un flic », ça sonne comme une conclusion et pourtant, on pourrait y accoler trois petits points. Oui, il y a encore, oui.
Il y a encore à dire et on ne saura pas tout puisque ce personnage, donc qui était gendarme à la garde républicaine, mm-hmm. dans la cavalerie quand même, à partir de 1983 en caserne au Célestin à Paris, devenu motard dans la police en 88. C'est en tout cas, il s'est bien camouflé sous son uniforme pendant autant d'années pour échapper à ses collègues de la brigade criminelle qui l'ont traqué. Il était devenu indétectable et je pense que c'est parce que il connaissait les procédures de scientifiques, mmh. notamment. Lui commence en 86 officiellement. Moi, je pense qu'il a commencé avant, mmh. donc par un assassinat sexuel de petite fille de 11 ans, Cécile Bloch, mmh. Dans le 19e arrondissement de Paris, donc le 5 mai 86. Et ensuite, il continue. L'année 87 est absolument épouvantable. En 94, il enlève une petite fille de 11 ans encore. Il la séquestre dans sa voiture. Il l'emmène dans une maison abandonnée où il la viole pendant 2 heures. Et c'est l'ADN, en fait, de ce violeur qui sera caractérisé un an plus tard. Et ça, un type comme ce François Vérove, il sait, il connaît l'évolution de la science. Et pour moi, il s'arrête peut-être à peu près à ce moment-là ou 3 ans plus tard, c'est parce qu'il connaît notamment, il sait que sur chaque scène de crime, on risque de le détecter par l'ADN.
Mais vous en parlez carrément comme d'un personnage de type Jekyll Hyde.
Oui, franchement, je pense vraiment que en France, mm-hmm. De tous nos tueurs en série connus, en tout cas, mm-hmm. Les autres étaient plutôt des marginaux quand même. Hein, Francis Holmes, Guy Georges, Fourniret aussi à sa manière, mm-hmm. il était marginal. Bon, il y a l'adjudant Chanal qui était marginal aussi, mais dans l'armée quand mm-hmm. même, un peu comme mm-hmm. François Vérove. Et celui-ci, il est vraiment rentré dans le rang. À un moment donné, il se réinsère dans la société. Il est brigadier de police. Il finit à Montpellier dans la motocycliste. Et ce type-là devient conseiller municipal. Il est grand-père. Il a 2 enfants, dont une fille qui mm-hmm. est devenue policière comme ouais. lui, qui a changé de nom depuis. Hein. Et donc, c'est vraiment c'est l'archétype du tueur en série américain de certains mmh. avec un degré d'intelligence mmh. un peu supérieur et de camouflage aussi de stratégie mmh. de camouflage
à la nuance près qu'il va mettre lui-même fin à ses jours.
Mais quand il est rattrapé en fait au bout de 35 ans quand mmh. même, ce type il doit se croire à l'abri quoi vraiment et il est rangé, tout va bien, il est un parfait notable en fait hein du côté de Montpellier et le fait d'être convoqué mmh. parmi d'autres hein parce qu'ils sont 750 ouais. Anciens gendarmes de la garde républicaine dans les années 80 à Paris à être convoqué pour des affaires anciennes des années 80 de viol et de crimes, ils le savent, ils savent quel est le mmh. motif et ils doivent se faire prélever l'ADN. Mmh. Et lui, il reçoit la convocation par téléphone, il dit il n'y a pas de problème, je vais venir, et puis il disparaît de chez lui. Et il se suicide avec des médicaments et il laisse une lettre posthume où il dit pas je suis le grêlé, mais il dit je suis ce grand criminel, voilà, et il explique pourquoi que par moment il pétait les plombs, il avait une espèce de pulsion de destruction, il devait tuer des innocents. Il dit à sa femme, cette lettre s'adresse à sa femme. Il dit qu'il a arrêté à partir de sa thérapie dans les années 90 et que ça a été une délivrance pour lui.
Oui, donc
et qu'il décide de partir, en fait, pour éviter un procès et pour éviter l'opprobre public à sa famille. Mais bon, c'est aussi par lâcheté, hein. Je veux dire, il veut pas affronter les victimes qui voulaient le voir.
Vous reproduisez des portraits robots dans le livre, dont un qui est saisissant de vérité, puisque vous y collez à côté la photo du véritable visage de Vérone. Mais à propos de portraits robots, puisqu'on réécoutait les Talking Heads, vous racontez qu'une des victimes avait cru reconnaître le chanteur des Talking Heads, qui faisait à l'époque la couverture du magazine Actuel.
Mais oui, mais ça, c'est incroyable. Donc ça se passe le 1er avril 87. C'est un peu un tournant dans l'histoire, enfin, pour aboutir à Vérove. C'est une boum d'enfants de 12-13 ans. Et puis il y a un type qui arrive, qui se présente comme policier intervenant parce qu'il y a trop de bruit, soi-disant. Mais il présente une carte de gendarmerie. Et les gamins voient que c'est marqué gendarme. Après, il s'installe, il passe 2 heures avec les gamins. Genre, ok, je vous surveille, je passe les disques, je fais la vaisselle, etc. Il donne son vrai prénom,
François.
Il pose son Colt Python 357 Magnum sur la table, et il est là, il trône dans la boum, il dit qu'il est mono dans les colos de la gendarmerie. Et une des gamines, justement, qui va le décrire après, dit, en fait, il ressemble au chanteur qui fait la couverture du magazine Actuel. Donc c'est David Byrne. Et la policière met dans son rapport que ça correspond tout à fait au portrait robot établi.
Et alors, autre...
Pardon, on est tout à fait certain qu'il ne s'agit pas de David Byrne.
Donc, oui,
tout à fait certain. Okay. Autre particularité du grêlé, outre le fait qu'effectivement il soit policier et que ça a dû aider à dissimuler, son mode opératoire est assez fluctuant. C'est-à-dire qu'il viole, il tue, parfois il viole simplement, parfois il vole. Est-ce que ça aussi contribue à rendre son profil opaque ?
Ah, tout à fait, parce que il faut se resituer en 86, à l'époque de la préhistoire de la police scientifique, où en gros les enquêteurs ne peuvent disposer que du groupe sanguin du suspect. En l'occurrence, là, c'est A rhésus positif, 40% de la population. Voilà. Et sinon, le signalement, la description du mec, donc qui est très très grand, plus d'1m80, athlétique, assez mince. Et les policiers se basent sur le mode opératoire. Ils vont essayer de retrouver d'autres cas similaires pour essayer d'avoir d'autres indices et pour avancer. Le problème, c'est que lui, effectivement, bon, au départ, il a sur 2 petites filles, il a le même mode opératoire. Hein, il les viole sauvagement dans des sous-sols de résidence. Il les a capturées dans un ascenseur. Il les a descendues en bas et il les étrangle. Par la suite, ce type-là aborde des jeunes filles avec une carte tricolore en se présentant comme un policier. Il a un toki-woki, il a des menottes, il a un holster pour mettre son arme, ce qui est assez caractéristique. Il utilise le jargon policier. Et puis, effectivement, 1 an et demi après les premières victimes, donc là, il viole Marianne, une jeune fille de 14 ans, et il passe 1 heure chez elle. Il braque tout ce qu'il y a dans l'appartement, il emmène la platine, le magnétoscope, des disques de musique classique. Ah voilà, c'est hallucinant. Donc il fait des vols à main armée, il attache. Par contre, il attache tout le temps. Mais les policiers, les enquêteurs de la crime sont paumés parce que ce sont des
cas. Ils ne peuvent pas
recouper. Ils ne peuvent pas recouper. Et encore, ils vont rapprocher le cas de Marianne quand même du cas des deux premières petites filles, parce que Marianne a été abordée dans l'ascenseur de son immeuble. Encore un ascenseur, parce qu'il était grand, pareil, même description physique, et parce qu'il avait le même groupe sanguin. Mais ça n'a pas suffi à l'époque pour que les juges rapprochent les dossiers, pour que tous les autres cas associé à la petite Marianne, justement, du flic qui se présente avec sa carte, etc., et tout l'attirail, soit rapproché des deux premières petites filles assassinées ou laissées pour mortes. Et du coup, voilà, l'enquête, elle part dans tous les sens. Hein.
Je vous avais dit que vous alliez frissonner. Amis auditeurs, on va continuer à parler du sinistre Grêlé, le nouveau livre de Patricia Touranchot. Le Grêlé, le tueur, était un flic aux éditions du Seuil. Mais là, pardonnez-moi, mais il est 31 et c'est l'heure des Pop News.
We're going to be listening to some music, we're going to be dancing, we're going to be singing, we're going to be keeping people's names out of our mouths, and we're going to be giving out awards all throughout the night.
Nous allons écouter de la musique, nous allons danser, nous allons chanter, nous allons garder les noms des gens hors de notre bouche, répond à ça Will Smith. Nous allons distribuer les récompenses tout au long de la nuit. C'est ainsi que le comédien, humoriste, animateur Trevor Noah a ouvert la 64e cérémonie des Grammy Awards, la révélation de l'année. C'est la jeune Olivia Rodrigo qui remporte aussi les prix du meilleur album pop et de la meilleure performance pop solo. La chanson de l'année, c'est Leave the Door Open de Silk Sonic. Les Foo Fighters, absents de la cérémonie, ont gagné les prix pour le meilleur album rock, la meilleure chanson rock, la meilleure performance rock. Ravi de rappeler que le Grammy du meilleur album de musique du monde a été attribué à Angélique Kidjo et le grand gagnant de la soirée, c'est lui. John Batiste, pianiste, chef d'orchestre, chanteur déjà titulaire d'un Oscar et d'un Golden Globe pour son travail sur la musique du Pixar Soul. Il complète donc sa rutilante collection avec un Grammy, celui de l'album de l'année pour We Are.
Qui n'a jamais rêvé d'aller faire un tour dans l'espace ? Moi. Ce sera bientôt possible par procuration dans les salles obscures avec un documentaire signé Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff qui filme 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d'altitude et ça s'appelle Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales.
D'aller dans l'espace, ça permet de prendre un recul qu'on peut pas avoir sur Terre.
On voit à quel point on est tous embarqués sur le même vaisseau spatial, cette grosse boule bleue qui traverse le vide de l'espace où il n'y a pas de vie et puis qui a des ressources limitées. On ressent la fragilité de la Terre. Il faut travailler en bonne intelligence, même si on n'a pas choisi d'être ensemble, pour faire en sorte que le voyage dure le plus longtemps possible.
En complément du film, 5 courts-métrages sur l'espace sont proposés pour un programme d'une durée moyenne d'1 heure. Et le tout sortira dans les salles le 27 avril.
Il a cassé Internet, enfin les sites de streaming, en une après-midi. Et lui, c'est Harry Styles qui a dévoilé un nouveau titre vendredi. As It Was, accompagné d'une splendide vidéo dans laquelle il danse dans une combi paillettes rouges de toute beauté, le clip cumule déjà plus de 2 millions de vues et le titre est désormais la chanson la plus diffusée aux États-Unis en une seule journée dans l'histoire de Spotify. L'album d'Harry Styles, Harry's House, arrive lui le 20 mai.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Thomas Pesquet.
Mais oui.
Bien sûr.
Fait ce qu'il y a dans l'espace.
Oui, bon. Bon.
Merci, Charline.
Oh, il était bien cet effet spécial, oui, intégralement fait à la bouche.
Nous sommes en compagnie de Patricia Touranchot pour parler de son livre Le Grêlé, le tueur était un flic, qui nous plonge dans les méandres de la plus longue traque de l'histoire de la police en France, et pour cause. À vous lire, Patricia, on a l'impression que l'organisation de la police jusqu'aux années 90 était, dirait-on, assez foutraque par certains aspects, faute de coordination entre les services, par exemple. Mais surtout, les fichiers ADN semblent avoir révolutionné tout cela.
Oui.
Vous-même, vous n'y étiez pas favorable au début.
Ouais, au début, franchement, dans les années 90, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. Un peu comme toute la société française, on se disait, mais c'est dangereux, quoi, de prendre l'ADN des gens, et pourquoi faire après, et voilà, et si les nazis mettent la main sur un tel fichier, qu'est-ce qui se passe ? Je n'avais pas compris à l'époque que ce n'était pas des régions codantes de l'ADN, enfin des régions qui donnent des détails intimes, qui seraient utilisées. Mais quand je vois l'assassinat de la petite Caroline Dickinson, c'était une petite Britannique en 96, à Plaine Fougère, en Ille-et-Vilaine. Là, il y a du sperme, donc de l'ADN, et un routard tatoué qui s'appelle Patrice Padé, qui est interpellé et qui avoue aux gendarmes avoir tué la petite Dickinson. Le juge fait une conférence de presse, le juge de Saint-Malo dit, voilà, il le met en prison. 5 jours plus tard, l'analyse ADN de ce type comparé montre que ce n'est absolument pas lui. Et Patrice Padé, d'ailleurs, a accordé des sons, enfin, il a son témoignage après, en disant mais ouais, mais moi j'ai avoué, j'en pouvais plus là de leur garde à vue aux gendarmes. Et j'avais une mine patibulaire, mais presque. J'étais tatouée, j'étais là dans le coin, j'étais bourrée. Ouais, ça pouvait être que moi. Donc moi j'ai dit bah ok, c'est moi. Ok, bah allez-y. Et là je me suis dit l'ADN peut dédouaner, innocenter et aussi incriminer à 100%.
Mais ce qui est aussi très intéressant dans votre récit, c'est qu'il peut aussi être lu comme l'histoire de la police scientifique.
C'est ce que j'ai essayé de faire, de montrer vraiment entre 86 et 96, parce que finalement l'ADN du Grêlé n'est caractérisé que 10 ans après, donc en 96. Et c'est ce qui permet de faire des recoupements entre des dossiers qui n'auraient jamais pu être rapprochés sinon. Par exemple, on s'aperçoit que le pédophile, le tueur pédophile de la petite Bloch et de Sarah, c'est le même qui a commis un double meurtre d'adulte dans le Marais à Paris, mais avec torture.
Très sauvage,
vraiment sauvagement. Le type a crucifié la jeune fille au père allemande de 20 ans. Il les a étranglés, il les a brûlés à la cigarette. L'homme, il l'a garrotté à l'espagnol, c'est-à-dire des liens qui en serrent le cou, les poignets dans le dos, les chevilles dans le dos, et le tout entortillé autour d'un tisonnier qui fait levier et qui, s'il bouge, ça serre son cou, quoi. C'est le garrot espagnol utilisé sous Franco en Espagne. Et donc, c'est sans ça, les policiers... Et en fait, à la crime, moi, je connais les deux groupes qui enquêtaient sur ces deux cas différents. Ils étaient à un étage d'écart. Ils se voyaient, se croisaient tout le temps. Les uns et les autres, le double crime du Marais, c'est en 87. La petite Bloch, c'est en 86. Je veux dire, ils travaillent ensemble. Et personne n'aurait jamais pu imaginer, sans l'ADN, qu'il s'agissait du même du même tueur.
Et alors pour la petite histoire, moi j'ai appris dans votre livre par exemple que cet homme était tellement double, ce fameux Grêlé, qu'il a même réussi à cacher à sa femme pendant 35 ans qu'il fumait.
Non mais ça c'est
comme vous parliez, je pense à ça pas à cause des brûlures de cigarettes.
Non mais c'est hallucinant, vous avez raison Antoine, franchement, ça m'a sidéré quoi, hein, dans la dernière partie du livre, donc on a plus le parcours de Vérove, il y a François en famille à travers le regard de sa femme un petit peu voilà, et puis il y a Vérove sous l'uniforme, plus à travers ses collègues de la garde républicaine et de la police. Sa femme, elle décrit un homme, elle dit elle-même, elle est effondrée évidemment, et elle dit j'ai vécu 36 ans avec un gars que je ne connaissais pas. Et là, les policiers lui disent voilà, il fumait. Ah mais non, jamais. Je ne l'ai jamais vu fumer. Il n'a jamais fumé, François. Alors que sur les scènes de crime et la torture à la cigarette, sur la scène de crime du Marais, il y a un mégot. C'est un paquet de Marlboro qui bloque une porte de sous-sol pour la petite Bloch. Il est vu dans la rue, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, acheter des cigarettes au bureau de tabac. Ce mec, en tout cas, quand il commet ses agressions et ses crimes, il fume. Et sa femme, non. Même la tenue vestimentaire. Elle ne le décrit pas du tout avec le blouson, les baskets, que toutes les victimes décrivent.
On doit vous poser la question à fréquence très récurrente, mais comment est-ce qu'on tient tout ça à distance? Comment est-ce qu'on se protège quand on travaille quasi en immersion sur ce genre de sujet?
Alors,
enchaînant.
J'ai fait comme à Quai du Polar ce week-end, c'est-à-dire que je me défoule sur la piste de danse, je bois des pastilles, je rigole, je perds ma voix à chanter. Et mais là, je vous cache pas que pendant l'écriture du Grêlé, il fallait aller vite. Et c'est un livre qui est écrit en 2 mois à peu près. Donc là, j'avais pas le temps ni de regarder des séries pour m'aérer la tête, ni de lire des livres sympas. Et donc là, il fallait y aller tout le temps. Voilà. Donc d'habitude, j'ai des parades. Là, je vous avoue qu'il y a eu quand même un petit tunnel assez noir qui, de temps en temps, ça me réveillait un peu la nuit. Même dans les termes que j'utilisais, par exemple. Sur le viol d'Ingrid, parce que moi, la richesse d'un fait divers, je trouve, c'est d'écrire le maximum de détails.
Bien sûr.
Sauf que là, sur des viols, c'est pas facile. Et par exemple, ça m'a réveillée la nuit, j'avais utilisé des mots pour le viol d'Ingrid, que j'ai retiré, que j'ai changé, mais pour Kathleen, ça m'a vraiment... c'était angoissant, parce que il faut l'écrire en étant un peu... enfin... délicat, quoi.
C'est le livre idéal pour passer une nuit blanche. Vous le dites tout de suite, Patricia.
Mais je suis obligée de l'avouer.
Oui, c'est un peu ça. Lâchez pas cette histoire.
Comment est-ce que vous avez réagi quand, en septembre 2021, vous apprenez qu'un ancien gendarme vient de se suicider et qu'il avoue, dans la lettre qu'il a laissée, avoir
commis tous ces crimes.
Ah mais je l'apprends le matin par un coup de fil d'un enquêteur quoi qui me dit un type s'est suicidé à Montpellier, il était convoqué et c'est probablement lui. Faut attendre les résultats ADN ce soir. J'ai plaqué mais tout ce que j'étais en train de faire, j'ai fermé mon ordi, mes fichiers d'ailleurs ont sauté, enfin bref, et j'ai ressorti ma boîte rouge le Grillet Cold Case dans lequel j'entassais depuis plusieurs années les mails, les témoignages, les lettres de gens qui me donnaient des pistes. Évidemment, j'ai plusieurs boîtes et là, j'étais dans un état, mais à la fois d'euphorie, j'étais survoltée en même temps. Je me disais, mais si le mec est mort, c'est terrible, il y aura pas de procès. Et en même temps, j'essayais de me calmer, mais je sentais que c'était bon, que c'était lui. Mais il y a eu tellement de suspects au profil idéal dans cette histoire que j'ai essayé de me calmer. Et en fait, j'ai attendu 23h30 pour avoir la réponse. Et voilà. Et j'ai pas dormi de la nuit. Ouais.
Une tour en chaux survoltée, vous imaginez ce que ça peut donner, cher Charline? Pareil que vous avez mis le feu, hein, ok, du polar cette année.
Avec tout Philippe Génada.
Ouais, bien sûr, c'est la photo de Génada. Alors, Patricia, votre livre absolument passionnant, Le Grêlé, le tueur était un flic, est édité au Seuil. Il est disponible depuis le 5 mars dans toutes les librairies et nous le recommandons, évidemment, avec enthousiasme. Vous restez avec nous dans quelques instants, nous allons examiner vos recommandations pop, mais tout de suite, je vous propose d'écouter ensemble un morceau du groupe The Smile de Thom Yorke, c'est The Smoke. Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Ça, c'est You Never Can Tell de Chuck Berry, sur lequel les héros de Pulp Fiction twistent en folie. C'est ce son qui vous vient à l'esprit quand on vous parle de pop culture, Patricia.
Exactement. Je suis une dingue et je suis une dingue de Pulp Fiction. Et
vous dansez le twist un peu à la Uma Thurman comme ça?
Ah, mais j'adore. Mais justement, à Quai du Polar, on l'avait répété avec Jainada, qui n'est pas un danseur du tout.
Qui n'est pas le Travolta de la.
Non, pourtant, il voulait faire. Non, mais j'adore. Et c'est un truc qui me galvanise. Enfin, quand je vois cette séquence, ce concours de twist avec Travolta et Uma Thurman, moi, ça me transporte. Mmh. C'est ce genre de choses qui me permet d'oublier le noir des histoires.
Bien sûr, Charline, vous imaginez une Patricia Tourangeau galvanisée?
Oui, bien sûr. Okay. Très, très bien.
Moi, je vois ça très bien aussi. Bien, nous sommes là maintenant pour parler de votre pop list. Patricia Tourangeau, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Le bouquin que vous nous conseillez, Patricia, c'est « Au printemps des monstres » de Philippe Jenada. Charline, ne me dites pas que Patricia a encore choisi des histoires criminelles.
Non, je vous le dis pas, mais en même temps, je vous mens. Un garçon de 11 ans est enlevé à Paris un soir de printemps 1964. On retrouve son corps le lendemain dans une forêt de banlieue, assassiné sans raison apparente. Pendant le mois qui suit, un homme inonde les médias, la police et même les parents de lettres de revendication demandent signer l'étrangleur. Il finit par être arrêté. Cet homme, c'est un monsieur tout le monde, un infirmier. Et ce n'est évidemment pas la fin de l'histoire.
Bien. Donc j'ai compris, il s'agit encore d'une affaire policière, mais cette fois sous la forme, une forme romancée. Oui. Dira-t-on, d'accord. C'est quoi? C'est l'écriture qui vous a conquis dans ce livre? C'est son approche de ce fait divers?
C'est l'approche que Jainada a, sa contre-enquête, sa minutie, son travail sur les archives et sur les personnages. Mmh. Et là, dans cette histoire, il nous apporte pas franchement la réponse, mais en tout cas une partie de la réponse sur le fait que probablement Lucien Léger, donc ce suspect qui a été condamné pour ça, n'était pas tout seul. Mmh. Il a en gros écrit les messages de l'étrangleur et après il a protégé quelqu'un d'autre. Mmh. Et il a trouvé, Jainada, mais des indices. Enfin, il y a un passage que je ne vous lirai pas, mais qui est sur la couleur du pull du petit garçon qui en réalité a toujours été considéré comme bleu marine. Ouais. Et il va trouver que c'était bleu roi et que donc le témoin qui a vu le petit garçon accompagné d'un monsieur Garcin Lazare, c'est pas Lucien Léger. Mmh. Il trouve et il a dans cette histoire tous les personnages sont des menteurs, sont des tricheurs, sont des méchants, mmh, y compris du côté de la famille de la victime. Et donc il a que des personnages comme ça et lui, Jainada, il va mettre en lumière Le petit rayon de soleil de l'histoire, c'est Solange, qui est la compagne, la femme de Lucien Léger, qui est une femme chétive, dont Jainada dit qu'elle mesure 1m56, elle pèse 43 kilos, toute sa vie, elle l'a passée quasiment en psychiatrie, ouais, internée, ouais, alors qu'elle souffrait visiblement d'autres choses.
Vous teniez à en lire quelques lignes pour qu'on entende cette musique de Jainada. Allez-y.
Oui. En ce printemps 65, Solange, dans les courriers qu'elle fera parvenir très régulièrement à Lucien, paraît tout à fait stable psychologiquement, lucide, souvent drôle. Nerveusement, son état s'est amélioré, mais à la voir, elle semble n'avoir quasiment rien mangé depuis des mois. Elle est extrêmement maigre, elle a les cheveux courts, son visage est très creusé, sec, vieilli. Elle ne fait pas 26 ans mais 50. J'ai touché la photo du bout des doigts, comme si je pouvais lui donner de l'énergie, de la légèreté.
C'est beau, et à la fin, Philippe Jenada.
Il cherche, c'est très émouvant, il la rend très émouvante et franchement c'est... Et à la fin... Il trouve la tombe de Lucien Léger et de tous les personnages. Donc il écrit, Jainada, Solange est la seule de tous les personnages de cette longue histoire qui vraiment n'est plus nulle part, qui n'a pas de tombe. Dans la dernière colonne de ce registre de la morgue, celle où le fonctionnaire doit indiquer si et par qui le corps a été réclamé, il est inscrit « abandonné ».
Philippe,
ça me donne des frissons.
Philippe Jenada, au printemps des monstres. Voilà la recommandation de Patricia Tourangeau. Patricia, votre film du moment, c'est La prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Anger. C'est un film de 2014. Charline, ce n'est pas encore une histoire de gendarme qui abuse de son képi?
Absolument
par hasard.
Absolument pas, Antoine. Et encore une fois, je vous mens. D'après l'affaire Alain Lamarre, entre 78 et 79 dans l'Oise, un maniaque sévit, prenant pour cible des jeunes femmes. L'homme échappe à la police, d'autant plus facilement qu'il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoire au sein de sa brigade.
Tireur fou de Pont-Saint-Maxence.
Allez.
Vous allez bientôt le coincer.
savez qui c'est.
Mon collègue et moi, nous voulions savoir si vous aviez un signalement à nous donner de votre agresseur. Il était comment? Il était vieux? Alice, vous comprenez, on a besoin d'éléments.
Je comprends.
Alice, je vous promets qu'on va tout faire pour arrêter celui qui vous a fait ça.
De la prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Anger, le film choisi par Patricia. Alors Patricia, vous travaillez sur des histoires criminelles, vous lisez des histoires criminelles, vous regardez des films à propos d'histoires
oui.
criminelles.
Oui, je suis un peu monomaniaque.
Obsessionnel, on est d'accord?
Oui. Oui, je l'avoue. Et en même temps, je me documente, enfin, je veux dire, cette histoire. Et le fait, justement, que ce soit un gendarme, m'intéressait beaucoup. Guillaume Canet le joue merveilleusement bien. Cédric Anger en fait un vrai beau film de cinéma. Et oui, ça me parle, je trouve. Et puis, mais j'ai un côté archiviste, hein, j'ai un côté...
Ah non, mais je vois. Alors, vous savez
ouais,
quoi, on
ouais,
va se changer
les livres, c'est pareil, quoi. Enfin...
Ouais, on va se changer les idées avec la série que vous avez choisie, puisque c'est Peaky Blinders, dont la dernière saison arrive bientôt sur Netflix. Sans spoiler, Charline, enfin un soupçon de comédie romantique dans les choix
oui,
de Patricia.
Oui, bien sûr, oui. Oh, non, toujours pas. Birmingham, année 20, l'histoire de la redoutable famille Shelby, qui tire principalement ses revenus de paris et de vol, surnommée Peaky Blinders à cause des lames de rasoir cachées dans leur casquette.
What am I still to be doing?
Tommy!
Then we Peaky Blinders rest.
La bande-annonce de la saison 6 de Peaky Blinders. Alors qu'est-ce qu'elle a écrit?
Mais là c'est plus, c'est quand même série. Une histoire de famille du crime, mm-hmm.
ouais.
Mais plutôt des bandits.
Ils
donc
sont
j'ai
dur,
aussi
là.
Ça, hein. J'ai pas que les tueurs en série, ouais. J'ai aussi les bandits, les voleurs qui sont plus distrayant. Bon, il y a la violence évidemment, la lame de rasoir, c'est sûr, mais ça se passe entre 1919 et entre les deux guerres mmh. et la montée de ce clan en fait qui va devenir une véritable mafia me passionne totalement.
Et la saison 6 ce sera le 10 juin sur Netflix.
Oui,
merci
j'adore.
Charline. Enfin Patricia, concernant votre choix musique, j'ai presque envie de demander à nos auditeurs de deviner ce que vous avez choisi, sachant que pour ce qui me concerne, je ne suis qu'à moitié surpris. Il s'agit évidemment du morceau « Fait divers » de Téléphone. Ah non, non alors là, je suis désolé, il faut me justifier ça.
À pourquoi mes débuts, à Lyon Libération, les policiers m'appelaient Miss Fait divers. J'aimais beaucoup.
Mm-hmm. Ah, c'est juste pour ça. Eh bien, on écoute Téléphone, Fait divers, c'est parti.
Elle s'appelait Fait divers, une fleur fanée en
téléphone fait d'hiver. Ça fait du bien par où ça passe. Hein. C'était les choix de Patricia Touranchot. Patricia, puisque je vous tiens sous la main, c'est une question moi, que je me suis toujours posée. Depuis Jack l'Éventreur, au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours donné des surnoms aux grands tueurs, comme ça, jusqu'au Grêlé, donc auquel vous consacrez un ouvrage. C'est pourquoi ? C'est pour tenir l'horreur à distance. C'est pour...
Peut-être, et puis plutôt que les appeler X ou Y, voilà, ils ont toujours des surnoms, puisqu'ils sont, ils sont anonymes jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Mmh. Et donc, il y a toujours une caractéristique. Là, c'était sa peau qui paraissait vérolée, acnéique, on ne sait pas trop, qu'il avait plein de boutons, qu'avaient décrit les premiers témoins. Ils avaient dessiné un portrait robot comme ça. Donc voilà, il est surnommé le Grêlé. C'est... Je sais pas pourquoi.
Et est-ce que le fait de fréquenter l'univers du crime et du crime vraiment sordide, dégueulasse, hein, comme celui dont vous parlez là, ça vous permet vous-même de compenser d'une certaine manière
dans votre
vie ? Oui, parce que
moi, franchement, alors je suis d'un naturel optimiste au départ. Mmh. Hein, je crois vraiment à la bonté des gens, à la, je sais pas, l'âme humaine. Elle est, pour moi, elle est bien. Et là, je vois le noir, je vois le côté noir. Mmh. Mais moi, du coup. Quand il m'arrive personnellement des choses dures dans la vie, je relativise, je me dis, mais attends, ça pourrait être vraiment plus grave, t'inquiète pas, tout va bien. Et voilà, du coup, je surmonte comme ça. Et ce qui m'arrive à moi, c'est rien.
Charline,
la vie est belle.
Prenez-en de la graine.
Ah oui, oui. Il y a de quoi.
Merci Patricia Touranchot.
Merci à vous.
Je rappelle que votre passionnante enquête Le Grêlé, le tueur était un flic est paru au Seuil le 5 mars dernier et qu'elle est très très vivement conseillée par Popopop. Merci ma chère Charline.
Merci.
Remettez-vous et à demain. Et merci à toute l'équipe de Popopop et à Julien Dumont qui était à la technique aujourd'hui. Demain dans l'émission nous recevrons Jacques Weber et Emmanuel Berco pour parler de la nouvelle saison de En Thérapie. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Popopop.